à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Clément Daté. Nouvelle série donc consacrée à la corruption, un phénomène mondial plutôt bien partagé. Demain, il sera question de trafic d'influence par des puissances étrangères. Mercredi, nous parlerons des outils permettant de lutter contre la corruption. Jeudi, nous évoquerons une discipline de haut niveau, la corruption dans le milieu sportif. Mais tout de suite, direction l'Afrique. L'État, c'est à moi. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Actuellement, si tu n'as pas vraiment de l'argent, tu ne peux pas avoir accès aux soins au Burkina Faso. Donc ça complique la vie des citoyens burkinabés.
Nanou, une fois de plus, sois la bienvenue. Hein.
Merci, monsieur.
Et ne t'inquiète pas, avec moi, tout s'arrange. Mais tu sais, dans la vie, c'est donnant-donnant. Hein. J'espère que tu comprends ce que je veux dire.
Oui, je vois de quoi.
Ah, d'accord.
On a eu cette vidéo au niveau du net. Cette vidéo montrant un policier qui se fait corrompre comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut traquer parce que la corruption n'a jamais fait avancer un pays.
Il n'y a que 70 000 ici. C'est supposé être 140 000.
C'est pas normal. Mais bon, les policiers aussi, il faut le dire, c'est des gens qui viennent de la société. Les grilles salariales au niveau de la fonction publique, c'est connu. Quand on n'a que le BFM plus une année de formation, rarement on gagne 200 000 francs. Vous imaginez, quand on vit à Dakar, 200 000 francs, ça te permet de faire quoi? Même payer le loyer, ça pose problème. Donc, c'est toute la société, je pense, qui est malade.
De reportages, mais aussi d'une série consacrée à la corruption, Patate amère. En janvier 2018, à Addis Abeba, lors du 30e sommet de l'Union africaine, les dirigeants d'État avaient décidé de faire l'année 2018 l'année de la lutte contre la corruption. L'un des pires démons de notre temps, avait lancé le président nigérian Muhammadu Buhari, arrivé au pouvoir en 2015, sur la promesse justement de s'attaquer à la corruption. Et en effet, l'Afrique souffre largement de ce fléau, comme l'indiquait notamment un rapport des Nations Unies de 2016, qui en faisait l'un des obstacles majeurs à la transformation structurelle de l'Afrique, mais aussi le dernier rapport de Transparence internationale qui faisait du continent la région du monde où la corruption est la plus forte. De surcroît, les bonnes intentions des chefs d'État résonnent de façon étrange lorsqu'on voit comment dans certains pays la corruption se trouve précisément à tous les niveaux du pouvoir, depuis l'administration jusqu'aux dirigeants, en passant par les simples citoyens, au point de devenir un mode de gouvernance en soi. Alors, quel est le coût pour l'Afrique de la corruption en termes économiques, sociaux, politiques? Comment émerge un État prédateur? Comment fonctionne-t-il et comment en sortir? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ici à Paris. Boris Samuel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste chargé de recherche à l'IRD et associé au laboratoire CESMA de l'Université Paris Diderot. Avec nous en duplex de Nîmes, Jean-Pierre Olivier de Sardan, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur au LASDEL à Niamey, laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociologie et de développement local. C'est bien ça?
Presque.
Presque. À corriger alors, corriger.
Non, les dynamiques sociales et le développement local.
Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, évidemment, il ne s'agirait pas de dire que la corruption est un phénomène propre à l'Afrique, mais c'est vrai qu'il n'en demeure pas moins que, année après année, les rapports s'enchaînent, montrent que le continent reste la région la plus touchée du monde. À titre d'exemple, sur le dernier rapport 2018 de Transparency International, eh bien, on classait chaque pays selon une note allant de 0, fortement corrompu, donc à 100, très peu corrompu, et la moyenne africaine se trouve à 32 contre une moyenne mondiale de 43. Comment expliquer, je vais commencer avec vous Boris Samuel, comment expliquer ce haut niveau de corruption en Afrique? Est-ce qu'il y aurait une spécificité africaine qui pourrait l'expliquer sans tomber évidemment dans le réductionnisme essentialisant?
Je crois qu'il faut y répondre à cette question par deux points. Le premier, c'est vraiment un point historique, comprendre un petit peu la façon dont la corruption s'est imposée comme un agenda national, international, comme une notion dont souffrent les citoyens du continent, mais qui n'est pas liée, qui n'est pas tombée, donc qui n'est pas issue d'un processus complètement hasardeux. Que se passe-t-il dans les années 80-90 au sortir d'années 70 où les États africains sont dans une crise économique extrêmement importante, donc avec la crise de la dette hein, qui fait suite à la crise pétrolière. Les États africains sont mis dans un régime d'austérité extrêmement important qui a pour effet en grande partie de diluer les politiques sociales et la capacité des États à répondre aux besoins des citoyens. Ça signifie aussi que les États ont cherché à se légitimer par le biais, sur chaque denier dont ils disposaient, par le biais d'un rapport à leurs citoyens dans lequel chaque denier qui était mis à leur disposition était aussi d'une certaine façon une rente. Donc les positions publiques, les marchés publics, l'accès à des services d'État sont devenus des denrées rares et qui étaient distribuées à la faveur de rapports qui étaient des rapports de clientèle et qui permettaient d'entretenir de bons rapports entre États et des groupes, des individus, soit haut placés, soit plus en bas de la hiérarchie. Donc elle n'est pas complètement venue de nulle part. Elle s'inscrit aussi dans un moment vraiment particulier. Vous savez qu'au milieu des années 70 arrive, et Jean-Pierre-Olivier de Sardan connaît cela par cœur, il l'a vécu et il l'a documenté, les grandes sécheresses des années 70, qui sont un moment très important sur le continent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont un moment où arrivent de manière extrêmement massive des ONG internationales, c'est-à-dire qu'elles donnent un rapport à la chose publique, qui est un rapport aussi intermédié par des acteurs extérieurs qui apportent une aide, notamment. Et en fait, les années 80-90 sont des moments d'affaiblissement de l'État d'un côté, de déploiement des politiques en lien avec un rapport clientéliste et en même temps à travers plein de structures extrêmement fragmentées. Ces structures fragmentées ont été des lieux qui ont pu être l'objet de transactions extrêmement multiples et diverses. Et en fait, c'est sur ce terreau-là, à la fois de la crise des finances africaines et dans les années 80-90 du besoin de se légitimer, qu'est né que s'est enraciné en fait le débat sur la corruption. Alors on va revenir dans quelles circonstances.
On va voir comment ça s'est déployé tout ça. Mais en première intention, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, même question. Est-ce que vous voyez quelque chose de spécifique dans le phénomène de corruption en Afrique ?
Je vais compléter ce qu'a dit Boris, disant sur trois points. Le premier. Ce qu'on connaît tous les pays africains, c'est l'occupation coloniale et la colonisation. Et la colonisation est une des premières sources historiques de la corruption. Le régime des colonies n'avait rien à voir avec ce qu'était la métropole. C'était un régime complètement dérogatoire par rapport à la citoyenneté occidentale à la même époque. Les commandants de cercle étaient tout puissants. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils travaillaient beaucoup avec des intermédiaires qui s'en mettaient, comme on dit, plein les poches. Rappelons-nous le fameux livre d'Amadou Ampateba, L'étrange destin de Vengrin, où on voit cet intermédiaire qui était un interprète colonial, qui est quelqu'un de parfaitement corrompu et corrupteur. Et bon, je crois que le système colonial, qui était assez pervers dans son mode de gouvernance, est une première. La seconde, c'est un peu lié à ce qu'a dit, mais de façon plus large à ce qu'a dit Boris Samel, c'est l'ensemble des phénomènes de l'aide. L'aide au développement fonctionne comme une sorte de rente, une rente extérieure. Vous savez, quand si vous prenez une analyse sur les effets pervers de la rente pétrolière au Nigeria ou dans d'autres pays, et vous remplacez rente pétrolière par rente de l'aide au développement, vous avez à peu près les mêmes effets. C'est-à-dire que ces fonds massifs déversés sans cesse vers les pays africains sont aussi des facteurs de corruption. Et le dernier point, je pense, c'est les conditions dans lesquelles s'est faite la démocratisation, disons, de la fin des années 80 et 90. Alors, ça renvoie à cette attitude des élites et d'accaparement des élites qu'on vient d'évoquer, mais qui fait que le phénomène démocratique a été en même temps un accélérateur de corruption autour de la corruption électorale et de l'impérieuse nécessité pour les élites au pouvoir de s'y maintenir et pour cela d'acheter les élections par des méthodes multiples et du coup de se rendre dépendant des grands commerçants.
Alors, l'héritage colonial, l'aide au développement, les conditions de la démocratisation, on reviendra sur un certain nombre de ces points. Je suis étonné parce que je n'ai entendu ni dans la bouche de l'un ni dans la bouche de l'autre un point en particulier qui est celle de l'impunité. Il y a un ancien diplomate mauritanien qui s'appelle, vous le connaissez évidemment, Amadou Ould Abdallah, qui a longtemps été secrétaire général adjoint de l'ONU et qui est par ailleurs l'un des membres fondateurs de Transparency International. Il se confiait très récemment au micro de France Info. Alors, il expliquait la concentration du pouvoir et des richesses aux mains des élites est un mélange cancérigène devenu de plus en plus une marque dans nos pays, disait-il, mais surtout s'il rappelait que si, bien sûr, c'est un phénomène international, il y a peut-être une spécificité en Afrique, c'est l'impunité. C'est l'impunité, disait-il, qui protège les élites corrompues. Est-ce que c'est pas un élément aussi qui pourrait l'expliquer, Boris Samuel ?
Alors, en fait, pour parler d'impunité, il faut déjà parler de désignation de la faute et de caractérisation de la faute. Et je pense que c'est par hasard si Ahmedou Abdallah l'évoque aujourd'hui en 2018. Est-ce qu'il aurait pu l'évoquer exactement de la même manière dans les années 80? Eh bien, je pense que non, pour une raison simple, c'est que le système de normes qui a contribué en fait à la constitution de la corruption aussi en objet qui peut être mis sur agenda, être caractérisé, en fait, date très largement des années 90. Alors je pense qu'il faut quand même détailler un point supplémentaire pour comprendre la manière dont la corruption est arrivée dans les années 90 au centre de l'agenda. C'est que quand j'évoquais tout à l'heure la crise de la dette et la réponse qui a été apportée, donc sous la forme d'une austérité très importante, la fin des années 70 est le moment d'un débat très important sur les causes de la crise africaine. En gros, vous avez les penseurs d'héritage marxiste qui considèrent que la crise africaine vient du fait que l'Afrique est exploitée de manière asymétrique par des relations économiques internationales. Et puis la pensée libérale qui voit en fait dans la faillite africaine une faillite de l'État, avec ses propres caractéristiques. La solution au début des années 80, par le FMI et la Banque mondiale, est d'imposer une austérité extrêmement drastique. Simplement, elle ne répond pas, elle ne réussit pas à résoudre la situation. Ce qui se passe dans les années 90, c'est que la corruption commence à être identifiée comme une des causes spécifiques, cette fois-ci, des faillites des États. La Banque mondiale et le FMI, qui jusque-là ne voulaient pas se mêler de ce qu'ils appelaient de l'État et de la gouvernance, il y a un virage très important qui s'opère. En 1997, la Banque mondiale publie un rapport sur le développement dans le monde, qui est sa publication phare, dans lequel elle se réintéresse à l'État. Et le nouveau slogan à partir de la fin des années 90, c'est « Governance matters ». La gouvernance importe. Et donc, la Banque mondiale et à sa suite les Nations Unies, mais c'est aussi l'OCDE, se mettent sur le dossier de la gouvernance et de son renforcement. Ce qui est très important en disant ça, c'est de se rendre compte que d'évoquer la gouvernance et les faillites de l'Afrique en matière de gouvernance, c'est aussi d'évoquer toujours le fait que les problématiques et les problèmes du continent sont liés à quelque chose qui lui serait propre. Donc, qui est un raisonnement quand même assez essentialisant. Un dernier point, juste par rapport à cette trame que je viens d'évoquer, c'est que il y a dans cette manière de réfléchir quelque chose qui est très profondément ancré dans une pensée néolibérale. Hein, dans la pensée d'un économiste comme Hayek, on trouve le fait que les organes étatiques sont des lieux de captation de rente et qu'il faut les neutraliser en les soumettant à des régimes justement de contrôle, d'expertise, etc., qui sont censés permettre de régir les comportements. L'émergence de la lutte contre la corruption, ça n'est évidemment pas la seule, hein, et Jean-Pierre-Olivier de Sardan et tous ses travaux sur la corruption au quotidien vécue par les citoyens montre une autre facette, mais c'est aussi un travail de normalisation internationale qui définit, par le biais de conventions successives depuis les années 90, un certain nombre de normes.
Et on reviendra évidemment dessus, et on reviendra aussi sur cette petite corruption, celle du quotidien, sur laquelle Jean-Pierre-Olivier de Sardan, vous êtes assez largement intéressé. On y reviendra. Sur cette question de l'impunité, est-ce qu'il y aurait un caractère spécifique, une fois encore, en Afrique, avec effectivement, au fond, des justices qui ne feraient pas leur travail, et ce serait peut-être aussi l'impunité qui expliquerait la pérennité de ce phénomène du côté de l'Afrique, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, ou est-ce que là, je suis trop essentialisant? Je me mets dans la lignée de cet ancien diplomate mauritanien, hein, quand je pose cette question.
Non, tout ce qu'on trouve en Afrique, on le trouve ailleurs. Simplement, le style, l'ampleur, les localisations sont différentes. Mmh. Alors, en ce qui concerne l'impunité, on trouve partout de l'impunité, bien évidemment, pour un certain nombre de... Mais il y a quand même une impunité, disons, un petit peu particulière. Et je pense qu'elle n'est pas du tout liée seulement à la corruption. C'est-à-dire que depuis 20 ou 30 ans, tous les chefs de service que nous interviewons dans nos enquêtes nous disent « je ne peux pas punir un subordonné fautif ». Je ne peux pas parce que c'est moi qui va être sanctionné, parce que le subordonné va appeler un protecteur qui va me... Hein, etc. Et donc il y a un phénomène général dans les administrations des États africains d'impunité. Ça, c'est vrai. Cette impunité s'est probablement aussi développée, hélas, avec la démocratisation. Enfin, en tout cas, elle est imputée par les citoyens comme un effet pervers de la démocratisation. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et ça nourrit d'ailleurs une nostalgie des régimes durs d'avant, qui pourtant n'étaient pas loin d'être parfaits, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc, voilà, il y a ça. Maintenant, vous avez parlé justice. En justice, c'est un autre problème. La justice, d'abord, est un site de corruption majeur. Les systèmes judiciaires de la plupart des pays africains sont très profondément corrompus. Alors évidemment, on peut difficilement dire que le corrupteur doit la justice corrompue va se précipiter pour sanctionner les autres corrupteurs. On a vu qu'il y a eu depuis, disons, allez, 40 ans à peu près, toute une série de juridictions spéciales qui ont été mises en place par tous les pays successifs ou par les changements de régime, par les coups d'État, etc., avec des cours spéciales anticorruption. L'effet, au bout de 30 ans, est nul de toutes ces cours spéciales. C'est-à-dire, soit elles font des résolutions, ça sert à rien, soit elles-mêmes deviennent des sites de corruption, l'anticorruption devient un site de corruption, ou soit elles sont instrumentalisées par le pouvoir politique pour régler les comptes à des ennemis tout en garantissant l'impunité aux amis. Donc, vous voyez, pour mes amis tout, pour mes ennemis la loi. Et donc, il y a un peu ce contexte de la justice qui la rend assez peu apte, qu'elle soit la justice normale ou les justices exceptionnelles, à sanctionner la corruption, tant qu'il n'y a pas une volonté politique majeure, et c'est celle-là évidemment qui manque, de s'attaquer au phénomène.
Je poursuis un tout petit peu avec vous, Jean-Pierre-Olivier de Sardan. Alors, sans surprise, parce que c'est des choses qu'on entend ou qu'on lit très régulièrement, Transparency International écrivait dans son rapport, je cite, « La corruption est un facteur qui contribue à la crise de la démocratie ». Alors, jusqu'ici, évidemment, on n'arrive même pas à être en désaccord. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut réellement imputer à la corruption la responsabilité de la crise de la démocratie que traverse le continent ? Est-ce qu'il existe une corrélation entre l'autoritarisme des régimes et le niveau de corruption ?
Je pense pas. Je pense que vous avez... Ce serait difficile de faire des corrélations de ce genre. On a des régimes autoritaires ou dictatoriaux qui ont été parfaitement corrompus ou qui ont couvert d'énormes corruptions. Il y en a d'autres, l'exemple du Rwanda, qui en même temps a probablement diminué la corruption. Et de même, il y a des démocraties qui ont réussi à régler un peu le problème de la corruption, comme les États-Unis au début du XXe siècle. Il faut se rappeler, les villes américaines étaient aussi corrompues que les plus corrompues des régimes africains actuellement, à la fin du 19e. Donc la démocratie a pu résoudre. Et il y a des cas où la démocratie, au contraire, est incapable. Alors, dans le cas de l'Afrique, je pense que la corruption n'a pas émergé, évidemment, avec la démocratie. Elle a émergé non seulement avec l'ajustement structurel, comme les éboristes, mais aussi d'autres causes, enfin, tout un ensemble de facteurs. Il y a toujours beaucoup de facteurs là-dedans. Mais lorsque la corruption, je pense, s'est développée dans les conditions dans lesquelles les régimes démocratiques se sont mis en place en Afrique, donc dans les conditions historiques très précises. Oui, je pense qu'à ce moment-là, on pourrait dire que ça a été plutôt un amplificateur. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de rapport, on peut dire que c'est la corruption a gangréné la démocratie, que la démocratie a favorisé dans ses formes en Afrique. C'est un peu l'œuf et la poule. Mais il y a eu certainement un effet d'entraînement. Et là aussi, si vous voulez, le gros problème, c'est que cette crise, on peut dire, il y a une crise de la démocratie dont la corruption est un des éléments. Un des grands majorités des opinions publiques africaines aujourd'hui reprochent à leur régime d'être corrompu. C'est un argument massif et qui nourrit d'ailleurs les fondamentalismes chrétien et islamique.
Mais vous avez raison de parler du Rwanda parce que c'est plutôt un cas particulier, parce qu'il est plutôt bien classé ce pays en matière de corruption, mais les ONG tirent très régulièrement la sonnette d'alarme sur la question des droits humains. Sur la question des ajustements structurels, Boris Samuel, et puis on va introduire donc un cas particulier qui est celui de la Mauritanie. Vous vous êtes intéressé très particulièrement à ce pays-là. Vous avez notamment produit un rapport intitulé « Trajectoire technocratique et instabilité politique en Mauritanie 2003-2011 ». Les 15-20 dernières années ont été marquées par une très forte instabilité politique avec des gouvernements renversés, celui de Maouya Ould Taïa qui a été renversé en 2005 après 20 ans de pouvoir et puis après l'enclenchement d'un processus démocratique, nouveau coup d'État en 2008 mené par le général Abdelaziz, toujours au pouvoir lui. Dans le cas de la Mauritanie, quel lien est-ce qu'on peut établir entre instabilité politique et corruption ?
Je crois que ça rejoint effectivement la discussion que vous aviez et je voudrais... Je vais venir au cas mauritanien, mais revenir sur cette question du lien entre démocratie
et corruption.
Il y a un certain nombre d'expressions qu'on trouve absolument partout sur le continent africain qui désignent en fait les modalités de partage des ressources à l'intérieur donc d'un pays. Et on peut se demander dans quelle mesure la démocratie ne passe pas par le partage des ressources qui doit être à un moment donné considéré comme juste au Nigeria. Par exemple, on parle du national cake, hein, le gâteau national. Donc, en Mauritanie, sur le, qui est le cas sur lequel je vais venir, on parle de l'équation tribale. Et cette équation tribale ou ce gâteau national, il peut être au cœur des enjeux de la démocratie, dans le sens où le fait qu'il y ait une alternance au pouvoir assure aussi une alternance dans l'accès aux ressources économiques. Et la Mauritanie fait partie de ces pays dans lesquels le pouvoir peut être exercé de manière autoritaire, peut être changé par le biais de coups d'État. Il n'est pas du tout exclu, et c'est même inscrit dans l'histoire longue de ce pays, que de voir des tribus issues de régions différentes se succéder et faire bénéficier à des parents qui leur sont propres, donc des ressources de l'État. Et en fait, quand vous évoquiez la démocratie comme étant contraire à la corruption, je pense qu'il y a vraiment une problématique, une vision problématique là-dedans, c'est qu'au contraire, la démocratie est un lieu de redéfinition dans l'accès aux ressources, et ça se matérialise d'ailleurs très clairement aussi par les pratiques de ce que Richard Banegas avait appelé dans les années 90 la démocratie des billets, qui est d'acheter les votes. Alors, est-ce qu'un vote acheté est un vote légitime? La question est très compliquée à traiter. Donc ces questions en fait de lien entre participation au collectif et corruption qui sont un petit peu ambivalents remontent, on l'évoquait en début d'émission, à la période coloniale. Depuis la période coloniale, les positions de pouvoir, les positions d'accumulation sont intimement liées. Donc la démocratie est aussi une des modalités.
Alors, décrivons peut-être un petit peu les choses sur la Mauritanie, et puis ensuite on fera le même travail avec vous, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, sur le Niger. Boris Samuel, sur la Mauritanie, il y a une pratique qui visiblement s'est beaucoup développée au début des années 2000 du côté de la Mauritanie, c'est la gestion des affaires économiques, et en particulier la falsification des comptes macroéconomiques. Je vous ai lu, vous expliquez qu'en fait la masse monétaire était à l'époque beaucoup plus importante que ce que les statistiques officielles nous présentaient, affichaient, et les niveaux de réserves en devises assez ridicules par rapport, une fois encore, à ce qu'on affichait. Comment est-ce qu'on organisait ces falsifications, à qui est-ce qu'elles servaient, et comment est-ce qu'on a essayé de sortir, je crois sans trop de réussite, de cette mécanique-là?
En fait, pour comprendre comment...
Cette fiction économique, c'est ça, c'est la formule que je cherchais que vous utilisiez. Vous parlez de fiction économique pour la Mauritanie.
Alors, j'en parle pour la Mauritanie, et de manière générale, tout le cadre, une bonne partie des cadres d'analyse des situations africaines dans les années 90 sont des jeux en trompe-l'œil, c'est-à-dire des jeux où la façade qu'on voit, qui est représentée dans les chiffres, qui est mise dans les rapports de la Banque mondiale, n'est pas la réalité de ce qui se joue sur le terrain. Donc la Mauritanie est un cas extrême au milieu des années 2000 de ce genre de décalage entre le discours technocratique et les réalités. Pourquoi ? Bien parce que c'est à la fois un pays où vous avez un accès aux ressources internationales par le biais du FMI, avec des missions qui viennent tous les 3 mois, contrôler donc les comptes de l'État, vérifier que la bonne utilisation des ressources, mais en même temps c'est un pays où les chiffres ne veulent vraiment pas dire grand chose pour une raison assez simple, c'est que les opérations sont gérées au sein de l'État de manière très informelle. Autrement dit, quand vous avez besoin au sein des administrations d'une fourniture particulière, vous passez par des circuits qui sont très largement en fait informels.
J'entends Boris Samuel.
Ce qui veut dire que les chiffres ne recouvrent absolument pas la somme des opérations, et la somme des opérations se fait en étant quasiment déconnectée des données. Et un jour, les économistes se rendent compte que, alors en Mauritanie, le détail qui a été vraiment déclencheur, c'est de se rendre compte qu'il y avait une inflation très importante qui n'apparaissait pas dans les chiffres.
Comment on s'en est rendu compte ? C'est parce que le FMI a mis un peu son nez là-dedans, on a accordé des lignes de crédit à la Mauritanie, et que du coup on envoyait des équipes sur place pour regarder un petit peu ce qui se faisait ?
Parce qu'il y avait un débat public qu'on voyait dans la presse, et que les citoyens se plaignaient de la hausse des prix qui était extrêmement forte, et que les données officielles ne retranscrivaient absolument pas cette hausse forte. De même, parce qu'il y avait un marché noir très important sur les devises, et que ce marché noir venait du fait que les ressources de la Banque centrale étaient très largement pillées, alors même que ses comptes étaient au vert. Donc en réalité, les économistes du FMI ont fini par se rendre compte. Ils avaient aussi leurs propres raisons. Ils demandaient un audit de la Banque centrale à ce moment-là. Donc les normes internationales sont toujours en jeu et font éventuellement dérailler une situation qui même si elle n'est pas satisfaisante, en tout cas, à les ressources pour se reproduire. Et les économistes du FMI ont demandé un audit de la Banque centrale à un moment où, en réalité, les comptes étaient extrêmement mensongers et où le marché parallèle d'échange était florissant. Donc, il y avait un écart très, très important entre les devises au cours officiel et telles qu'elles étaient achetées dans la rue.
Et le processus de démocratisation qui a été enclenché pendant un moment n'a pas permis justement de sortir de cette logique de fiction économique.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça montre bien la façon dont, en fait, avec des normes de la gouvernance, on ne parvient pas à réorienter les pratiques effectives. Parce que sur une situation dans laquelle vous avez des pratiques qui échappent à la formalisation et qui échappent au discours officiel, le fait d'avoir des bonnes intentions pour dire qu'on va mettre en place un programme de bonne gouvernance, qu'on va remettre de nouveaux chiffres en place, les habitudes administratives, elles sont là. Les liens entre le pouvoir et les entreprises sont là. L'assise d'un pouvoir technocrate qui est extrêmement faible par rapport à ses citoyens ne se transforme pas du jour au lendemain. Donc vous avez un pouvoir qui se légitime au plan international avec des programmes de bonne gouvernance, des programmes de réduction de la corruption. C'est le moment où est produite en Mauritanie la première stratégie de lutte contre la corruption qui a été faite notamment à partir de la consultation d'anthropologues. Et Giorgio Blundo, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre-Olivier de Sardan, a fait partie des gens qui ont travaillé sur le cas de la corruption en Mauritanie en 2006, je crois, pour nourrir des programmes de lutte contre la corruption. Simplement, ils ont été mis au crédit de gouvernements qui étaient des gouvernements technocrates, qui empilaient les rapports et qui n'avaient que très peu de prise face à des hommes d'affaires qui, eux, cherchaient leur profit autrement.
Jean-Pierre-Olivier de Sardan, peut-être une réaction sur le cas mauritanien, et puis on va doucement glisser du côté du Niger, parce que là aussi il y a des choses à dire. C'est un pays qui n'échappe pas à la corruption, et il se trouve qu'il y a une délégation du FMI précisément qui très récemment s'est rendue au Niger, et qui a félicité le gouvernement pour la mise en place de ses réformes, de son fameux plan de développement économique et social 2017-2021. Une équipe du FMI qui a même salué les efforts du Niger pour améliorer la gouvernance et pour lutter contre la corruption. Donc, est-ce qu'il faut effectivement croire sur parole nos amis du FMI et dire qu'effectivement aujourd'hui le gouvernement de Issoufou fait tout pour lutter contre la corruption, ou est-ce qu'il faut regarder plutôt ce que nous dit Transparency International et qui nous dit que les choses vont plutôt dans le mauvais sens s'agissant du Niger? Allez, je vous laisse réagir, Jean-Pierre-Olivier de Sardan.
Moi, je crois que ni le FMI ni Transparency ne connaissent très bien la situation.
C'est pour ça que je me tourne vers vous.
Donc, ceci étant. Si le FMI félicite le régime actuel pour ses résultats économiques, c'est une chose. S'il le félicite pour la lutte contre la corruption, ce serait une farce.
C'est ce qu'il a fait il y a quelques jours.
Ça qui est assez invraisemblable. Alors, parce que si vous voulez, la corruption au Niger, comme dans beaucoup d'autres pays africains, est systémique. Elle va évidemment de haut en bas et à tous les niveaux de là. Mais on ne peut pas dire actuellement qu'il y ait de vraies avancées spectaculaires et solides dans la lutte contre la corruption. Mais c'est pas le cas simplement de ce régime. C'est tous les régimes qui se sont succédés maintenant depuis une vingtaine d'années. Dans tous les cas, on a toujours une dénonciation extrêmement véhémente de la corruption par les oppositions en place. Ils dénoncent d'ailleurs en général non seulement la corruption, mais en même temps l'interventionnisme, le favoritisme politique, l'extension démesurée des privilèges chez l'élite politique. Et puis, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, après avoir dénoncé ça, ils font exactement le contraire et remettent à peu près la même chose que ce qui était avant. Et c'est le cas de tous les régimes qui se sont succédés. Je me rappelle très bien que le Premier ministre Mahamadou, quand il était au pouvoir, a fait un remarquable discours dénonçant la corruption, alors qu'il avait un ministre de la Justice qui était un emblème même de la corruption. Il y a une sorte de décalage total entre les paroles et les actes. Et le président actuel a aussi fait un magnifique discours sur la lutte contre la corruption. Ceci étant, un des commerçants les plus connus et emblématiques même de la corruption du régime, qui était allié avec le régime précédent, lorsque ses favoris ont perdu, il a pris immédiatement sa carte du parti au pouvoir et n'a pas été inquiété, et il a continué. Donc on est vraiment dans une situation où, quelque part, on a l'impression que les nouveaux gouvernants sont totalement prisonniers de leurs alliances, de ceux qui les ont fait rois. Ceux qui les ont fait rois sont des gens corrompus, sont ceux qui ont financé leur campagne, sont ceux... parce que c'est pas simplement l'achat de vote. L'achat de vote est quelque chose de relativement secondaire, à mon avis, dans la corruption électorale. Elle est bon, l'achat de votes, après, on n'achète pas vraiment les votes parce que les gens votent pour qui ils veulent. Mais disons, c'est pas ça le problème principal de l'achat de votes. C'est le financement des campagnes qui coûtent beaucoup plus cher comparativement en Afrique, en Occident. Et ce financement se fait par les gros commerçants. Et eux, c'est pour eux un investissement dont ils attendent après un retour sur investissement en termes de postes pour leur protéger, en termes de marché public, en termes d'exonération fiscale, en termes de fermer les yeux sur les pratiques pas très orthodoxes qu'ils font, etc., etc. Et donc, du coup, les régimes sont quelque part prisonniers de ce financement électoral massif. Mmh. Les élections sont une occasion de distribution de rentes, pas simplement d'achat de voix. Même les militants des partis reçoivent de l'argent, les chefs reçoivent de l'argent, les imams reçoivent de l'argent, tout le monde reçoit de l'argent. C'est une distribution invraisemblable d'argent. Une élection. Et donc, quelque part, il y a un vrai problème autour de ça. Parce que les gouvernants deviennent redevables vis-à-vis de ces commerçants. Quelque part, on peut se dire, un pays comme le Niger est un peu pris en otage par les gros opérateurs économiques nigériens, parfois nigériens aussi.
Alors, il y a évidemment ces processus électoraux qui produisent de la corruption, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, mais il y a peut-être aussi un problème plus profond des administrations publiques elles-mêmes. Le Niger, il se trouve, est sur le point justement d'organiser des états généraux de l'administration publique. Ils ont pour but, alors je vais citer exactement ce qui est dit par le gouvernement nigérien, ils ont pour but, ces états généraux de l'administration publique, donc, de faire un diagnostic de notre administration et voir quels sont les changements qui peuvent intervenir pour améliorer la qualité des services de l'administration publique, tant au niveau du ministère de la fonction publique que dans les autres ministères et dans toutes les autres institutions de la République. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est en tout cas ce qu'a expliqué la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui s'appelle Madame Kaffa Rakiatou Christelle Jacou. Si on regarde les choses pour le Niger, qu'est-ce qui dysfonctionne dans la fonction publique, dans l'administration nigériane, et est-ce qu'on peut améliorer la situation ?
Ouais, vaste débat. Qui fonctionne. Oui. Un mot d'abord sur cette annonce que vous avez faite. Il faut reconnaître quand même que aussi à l'intérieur, disons, de l'élite politique, il y a des acteurs qui sont plus sensibles, disons, au diagnostic qu'on peut faire sur l'état de la corruption. Et c'est par exemple, ça a été le cas. Il y a un haut commissariat à la modernisation de l'État au Niger qui a toujours beaucoup poussé pour qu'on lutte contre la corruption et pour aussi d'autres réformes de la. Donc je pense qu'il y a aussi des institutions réformatrices. Il y a un premier ministre sur lequel personne ne développe des accusations de corruption, que tout le monde respecte d'une certaine façon. Et par exemple, on nous a demandé un diagnostic qu'on a fait déjà sur la fonction publique nigérienne, qui était, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas de complaisance et qu'on dénonçait non seulement la corruption, mais aussi le privilégisme, mais aussi la distribution de faveurs, mais aussi la politisation à outrance de l'administration, etc. Et que le Premier ministre l'a accepté, diffusé un résumé. Donc, du côté de ça, il y a une certaine bonne volonté. Mais entre la bonne volonté de quelques acteurs dans l'appareil d'État et la capacité d'une réforme profonde, il y a un gouffre. Et bon, vous savez, tant qu'il n'y a pas des mesures spectaculaires, radicales, contre les propres amis du pouvoir, je pense qu'il n'y aura pas de... Sérieuse, on dit, le proverbe en Afrique est toujours le poisson pourri par la tête. Et tant qu'il n'y a pas des mesures qui sont prises suffisantes, et là, jusqu'à présent, on n'en a pas. Ceci étant, il est vrai que le problème de la réforme de l'administration se pose. Il n'est pas que celui de la corruption, il est celui de l'ensemble de ce que nous appelons les pratiques non observantes. Enfin, l'ensemble d'une série de pratiques qui sont ne suivent pas les règles officielles, ne suivent pas les règles légales, pour de bonnes parfois et pour de mauvaises raisons parfois, parce qu'il n'y a pas les moyens, qu'on n'a pas la seule, parce qu'aussi on a des stratégies opportunistes, etc. Donc, effectivement, du haut en bas, il y a des problèmes qui se font dans l'administration. On peut le dire autrement. Dans la majorité, dans beaucoup de cas, l'ensemble des acteurs publics ne peut pas ou n'est pas en mesure de suivre les normes officielles et les contourne. Donc, on a des multiples stratégies de contournement des normes officielles qui se font un petit peu partout. Parfois, ça peut être pour quand même délivrer le service, même dans de mauvaises conditions. Parfois, c'est pour s'en mettre plein la poche ou c'est pour redistribuer à des amis.
Et les changements à la direction des affaires publics ne peuvent rien. Il se trouve que Mamadou Issoufou, il devrait a priori quitter le pouvoir à la fin de son mandat. Il va respecter la Constitution. Voilà déjà une bonne nouvelle, puisqu'il ne va pas se présenter pour un deuxième mandat. Donc ça, déjà, ça peut être considéré comme une bonne nouvelle pour la démocratie. Mais son départ, il ne faut rien en attendre. On n'améliorera pas le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de l'administration publique.
Je ne dis pas ça, je ne sais
non,
pas
ce que... Non, je pose la question.
Non, il y a des cas où on a vu que des changements, y compris des changements complètement inattendus, c'est le cas de l'Angola, ou un changement inattendu de quelqu'un élevé dans le sérail du pouvoir, une fois arrivé au pouvoir, ben, il commence à s'en prendre à la corruption, y compris la corruption de ceux qui l'avaient protégé jusque-là et de ceux qui avaient fait sa carrière politique. Rien n'est perdu. Je dis pas, on ne peut pas préjuger de ce que ferait le successeur du président actuel. Peut-être que celui-ci, même s'il a été élevé dans le pouvoir, ou même s'il est venu de l'opposition, mais bon, la situation d'opposition est assez catastrophique, aura les moyens, à un moment donné, d'inverser le cours des choses ou de s'y en prendre vraiment. Pour le moment, on est beaucoup plus dans des régimes de déclarations publiques, de bonnes intentions, et on n'est pas, pour le moment, dans les actes qui peuvent dire que effectivement, les choses ont beaucoup changé au Niger en termes de lutte contre la corruption. Malgré ce que dit le FMI. Et d'ailleurs, un bon indicateur, à mon avis, de la bonne volonté ou pas d'un régime, ce ne sera pas directement la lutte contre la corruption, mais la lutte contre la politisation de l'administration. Le jour où on nommera dans des postes élevés d'administration les gens les plus compétents et pas ceux qui sont les amis, les recommandés, les gens de tel parti à qui on donne de tel ministère, etc. Là, il y aura une rupture, et je pense que ça va aller de soi que cette rupture ira aussi avec une rupture dans la corruption.
Il faut dépolitiser.
Je pense que la rupture, elle ne peut pas être que de la corruption.
Il faut dépolitiser cette administration publique. Boris Samuel, si on regarde le cas de la Mauritanie, de la même manière, le président Aziz, lui aussi, ne devrait pas être candidat à sa propre succession. Donc il va partir, il va laisser un autre à sa place. Est-ce que là aussi, on peut penser que des changements vont arriver en matière de corruption, ou est-ce que tout va continuer comme avant ? On a vu qu'il y a eu un processus de démocratisation en Mauritanie, mais qui en réalité n'a rien changé en matière de corruption. Au fond, si je comprends bien, on a juste changé les réseaux, les modes de captation des richesses, mais c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose du départ d'Aziz, ou est-ce que le prochain fera exactement la même chose ?
Non, mais je crois qu'en fait il faut resituer toutes ces questions sur le temps long, et donc la réponse pas pour ce qu'évoquait Jean-Pierre-Olivier de Sardan tout à l'heure, qui tient au lien entre grands commerçants et administration par exemple, ou sphère politique, et a priori plutôt négative, c'est-à-dire que ces relations qui sont des relations d'intéressement parfois mutuelles, parfois plus conflictuelles, ne s'évanouissent pas, d'autant plus à partir du moment où la rente dans un pays comme la Mauritanie est extrêmement importante, dans une période où on fait confiance à ce pays pour lutter contre le terrorisme, et que donc c'est un pays qui reçoit des quantités d'aide et qui a un blanc-seing international, et qui, quand moi je l'ai vu sur un certain nombre d'opérations qui étaient des opérations censées évaluer les pratiques mauritaniennes de gestion publique, comment, parce que la Mauritanie était considérée comme un allié sur lequel il fallait compter, la Banque mondiale, la France étaient beaucoup plus larges dans leur appréhension des critères qui était censé conditionner l'accès de la Mauritanie à l'aide. Donc,
entre parenthèses, vous étiez plutôt bien positionné, parce que vous avez travaillé un certain nombre d'années dans des ministères de l'économie et des finances de pays africains, donc vous avez pu l'observer.
Oui, tout à fait.
Parenthèse fermée. Non, mais voilà, pour dire que vous ne parlez pas de n'importe où. Voilà.
Et pour dire qu'effectivement, quand vous avez un certain nombre de discours technocratiques sur les notations d'un pays et ses améliorations, je pense que ces notations peuvent être le support de relations extrêmement diverses. Et il y a un point qui était extrêmement important dans ce que disait Jean-Pierre-Olivier de Sardan tout à l'heure. L'État n'est pas monolithe. Donc ça veut dire qu'au sein des appareils étatiques, vous avez des personnes qui ont une action extrêmement résolue en faveur de l'amélioration d'un certain nombre de points. Prenez le cas, je me décale une seconde du cas de la Mauritanie pour aller vers le cas du Burkina Faso.
Ouais.
Au Burkina Faso, où j'ai pas mal travaillé sur la gestion des finances publiques, vous avez toute une classe de hauts fonctionnaires qui sont des hauts fonctionnaires censés vraiment... avoir aidé le pays à développer des procédures extrêmement modernes de conduite des politiques publiques pour les orienter en fonction des attentes des citoyens, en fonction véritablement de ce qui est considéré comme les bonnes pratiques internationales. Et pour autant, ce que font ces technocrates se couplent à d'autres lieux dans la gestion publique au niveau de la passation des marchés, par exemple, au niveau de la gestion de grands programmes d'aide qui sont très importants pour le pays, qui eux ne sont pas sanctionnés. Donc vous avez une coexistence entre ces éléments vraiment, disons, réformateurs et d'autres qui sont porteurs en fait d'un style de pouvoir fondé sur l'allocation des rentes. Maintenant, on est dans un contexte aujourd'hui où effectivement des mesures sont censées être prises dans les objectifs de développement durable, par exemple, qui ont été adoptés récemment. Il y a des mesures de la gouvernance. Un certain nombre de gens, bien sûr, on peut les critiquer, mais c'est pas non plus une mauvaise chose que d'avoir un suivi de la perception des citoyens de l'état de la gestion de leur administration publique.
Alors, donc voilà, ce sont des petits pas. Justement, vous parlez des citoyens, vous parlez du Burkina Faso. Je vous propose d'écouter un clip. Clip publicitaire, un spot publicitaire. On est en décembre 2014, donc après la chute de Blaise Compaoré. Et c'est un clip contre la corruption. Peut-être qu'on va pouvoir justement glisser doucement vers la question de la petite corruption, qui est aussi intéressante parce qu'elle explique aussi ce mouvement général de la corruption. On va écouter d'abord ce clip et puis ensuite on en parle.
Ça fait la énième fois que vous me donnez rendez-vous, mais
rien. Écoutez, madame, si vous êtes vraiment pressée, faites un petit quelque chose. Et là, nous allons accélérer la procédure.
Ah bon? D'accord. Je te conseille de saisir le Rhin Lac. Comment est-ce qu'on fait? En appelant le numéro vert, le combien?
Vous êtes témoin ou victime d'actes de corruption. Vous avez des éléments ou des informations relatives à des cas de corruption, de détournement, de blanchissement d'argent. Appelez le numéro vert du Rhin Lac. 80 00 11 22. Lutter contre la corruption, un devoir citoyen.
Un devoir citoyen que de lutter contre la corruption, Boris Samuel, et puis ensuite j'entendrai Jean-Pierre Olivier de Sardan. On est là au Burkina Faso. Est-ce que ce genre de spot a un quelconque effet? Et est-ce que, de façon plus générale, on peut dire qu'il y a une forme d'éveil des consciences avec des opinions publiques de plus en plus préoccupées par cette question de la corruption, et quel effet ça peut avoir, effectivement, sur les administrations, sur les dirigeants, etc.?
Alors, je pense qu'il y a vraiment un effet d'optique à considérer que les opinions publiques africaines ont été endormies, et elles ne l'ont pas été. Il y a des révoltes citoyennes qui ont émergé dès le début des années 80 face aux ajustements structurels qui étaient véritablement extrêmement violents. Et ce qu'on voit aujourd'hui face à la difficulté à accéder à des droits sociaux n'est que dans la prolongation de revendications qui sont des revendications longues. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on n'est pas dans une rupture, mais on est véritablement dans une continuité. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, un certain nombre d'organismes proposent rendre compte de cette protestation dans un vocable qui est plus aisément en dialogue avec les termes des institutions. Donc, un organisme comme le RENLAC, hein, dont il était fait mention dans l'extrait que vous avez mis, est un organisme une association qui rapporte en fait, hein, les cas de violation de la bonne gestion dans les administrations. Il a démarré dans les années 2000. Il a été très investi. Et je pense que ces organismes-là, alors, ils sont ambivalents eux aussi. Pourquoi? Le RENLAC était invité sous Blaise Compaoré à pratiquement toutes les réunions de concertation autour des politiques nationales, et d'une certaine façon on peut dire qu'il faisait partie d'un bloc l'État consultait très régulièrement. Donc c'était une ONG qui faisait partie, disons, du bloc admis par l'État sur la scène publique. En même temps, c'est un groupe qui a aussi contribué à rendre légitime le fait que les citoyens étaient véritablement frustrés face à la faiblesse des ressources qui leur retombaient. Et il est évident que ce facteur-là est tout à fait central dans la révolution de 2014, qui a lieu en 2014. Donc, si vous voulez, on est tout à fait dans le cas d'une institution qui est à la fois, qui joue le jeu un petit peu éthéré de la version institutionnelle, de la participation dans les cénacles étatiques, de l'utilisation d'instruments très institutionnels, et qui, en même temps, rend compte d'aspirations profonde de la part des citoyens, et donc oui, contribue à légitimer dans le débat public, dans la presse, un certain nombre de questions qui peuvent finir par des mouvements politiques importants, comme ça a été le cas au Burkina Faso.
Jean-Pierre Olivier de Sardan, est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que les choses ont changé et qu'on a assisté ces dernières années à une montée en puissance de cette préoccupation citoyenne de la corruption?
Je ne sais pas, c'est assez difficile à,
à évaluer. Je veux dire, c'est l'affaire des sondages d'opinion sont compliquées. Hein. Il y a eu un sondage d'opinion au Niger récent où je sais pas quoi, 40% dit, par exemple, des gens disaient qu'il n'y avait pas de corruption, ce qui est totalement invraisemblable. Les conditions même d'un sondage font que les gens donnent la bonne réponse qu'ils croient donner ou des choses comme ça. Mmh. Donc je méfierais des sondages. Et je suis d'accord avec Boris Hamel. Bon, c'est pas d'aujourd'hui que les gens dénoncent la corruption. Ils n'ont pas attendu des spots, etc. Il y a des institutions, effectivement, qui s'en préoccupent. Le Rhénelac, je le connais aussi. Après l'apparition d'ouvrages qu'on avait dirigé avec Giorgio Blundo, je me rappelle, j'avais été invité là avec le Rhénelac, et on avait fait des exposés devant les commissaires de police et les policiers. Donc le Rhénelac avait effectivement ses entrées dans des couches de l'État importantes. Je trouve que c'est jamais inutile de faire ça. Ça m'est arrivé d'intervenir aussi dans l'école auprès des magistrats, des choses comme ça. Donc c'est jamais inutile de le faire. C'est jamais inutile d'avoir ça. Ceci étant, c'est évidemment pas ça qui va changer une corruption qui est à ce point structurelle. Donc c'est des petits pas. Je pense qu'il faudra beaucoup de petits pas, qu'il faudra aussi à un moment qu'il y ait des grands pas qui viennent d'en haut, mais des petits pas d'en bas, c'est jamais, ou du milieu plus exactement en l'occurrence, c'est jamais inutile.
Mais ce qui me frappe dans ce que vous dites, Jean-Pierre, pardon de vous couper Jean-Pierre-Olivier de Sardan, mais ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que vous preniez ce chiffre, 40% des personnes au Niger considèrent qu'il n'y a pas de corruption dans le pays. Alors vous dites que évidemment, il y en a et que c'est un chiffre qu'il faut peut-être prendre avec des pincettes. Mais est-ce que c'est pas aussi le signe que, d'une certaine manière, les citoyens acceptent ? Il y a une certaine forme d'acceptation de cette corruption, alors c'est peut-être cette corruption du quotidien, qui fait que, précisément, à l'échelle de l'État, de l'administration publique, des dirigeants, au fond, on accepte relativement bien la corruption.
Oui, alors c'est autre chose. Sur les 40%, je suis pas sûr que c'était. Je dis à la louche, hein, je suis pas sûr 40%. Et je sais plus si c'est qui n'ont pas été impliqués dans des transactions.
Ah, d'accord.
Je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça, c'était quelque chose d'absolument invraisemblable.
Mais cette idée que la petite corruption produirait une forme d'acceptation pour les corruptions des dirigeants.
Non. Je pense pas du tout. Ouais. Justement, l'ambivalence, elle est la suivante. Tout le monde dénonce la corruption des dirigeants. D'accord. Absolument tout le monde. Je veux dire, c'est un discours extrêmement répandu. Moi, j'ai rarement vu, ou peut-être jamais vu, sur des milliers d'entretiens, quelqu'un qui dise « Oh, bon, c'est normal ». Non, je pense que c'est systématiquement dénoncé, la corruption des dirigeants. Tout le monde dénonce aussi la corruption, la petite corruption, mais la petite corruption des autres. Et en même temps, on ne dit rien ou on justifie les cas où on est soi-même impliqué là-dedans. Et donc, tout le monde est quelque part, a toujours été impliqué ou pas dans des transactions corruptives. Il est quasiment impossible, sauf si on est un saint ou un héros, il n'y en a pas tellement, de ne jamais avoir été impliqué dans des transactions corruptives, ne serait-ce que pour avoir donné de l'argent à un agent de la poste pour qu'il vienne réparer votre téléphone, parce que sinon vous attendez 6 mois, ou un policier pour un clignotant, pour pas perdre sa demi-journée. Tout le monde a tout. Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte à la fois tout le monde est impliqué d'une façon dedans. On n'est pas très fiers de ça, mais on y est quand même. Tout le monde est à peu près impliqué. Et en même temps, on dénonce la corruption des autres, voilà, et surtout la corruption d'en haut.
Il y a ce que vous dites. Vous dites qu'il y a une éthique populaire de la corruption. C'est la formule que vous utilisez avec cette idée, dans l'imaginaire collectif en tout cas, qu'il y aurait une bonne corruption, je mets des guillemets, et une mauvaise corruption. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? La limite, la frontière entre les deux, c'est celle des autres et la mienne, ou c'est plus compliqué que ça?
Vous avez déjà vu quelqu'un de sciences sociales qui dit autre chose que c'est pas plus compliqué?
Si, non, c'est pour ça que je vous pose la question.
Bien sûr que c'est plus compliqué que ça. J'aurais pas dit qu'il y a une bonne ou une mauvaise corruption. Ouais. Je veux dire qu'il y a des formes de légitimation ou d'acceptation des phénomènes corruptifs. C'est pas, ça se situe pas sur le plan d'une chaîne morale. Ah, ça, on est dans le bien. J'ai rarement vu ça dans le bien. Moi, je me rappelle des médecins qui disaient, on fait le serment d'Hippocrate, on le trahit tous les jours, j'ai honte. Et donc, quand même, au niveau moral, je pense que
mais alors, qu'est-ce qui est acceptable et non acceptable?
C'est vrai qu'à un moment donné, il y a toute une série de choses qui font que les autres le font, ou bien voler l'État, c'est voler personne, ou bien si le régime donne l'exemple, moi, pourquoi je prendrais pas ma part, ou bien moi, à la fin du mois... Je vais vous donner un exemple. Un jeune juge est nommé dans une localité reculée. Et il vient avec sa famille, il y a pas grand chose là, et il a pas beaucoup de mains. Et le grand commerçant du coin arrive et lui dit je vous donne ce réfrigérateur, c'est un cadeau de bienvenue. Et le jeune juge, il me rappelle quand j'ai discuté, il dit si je le prends pas, ma femme divorce. Elle va repartir à la ville en disant je suis le moins que rien, je suis un imbécile, c'est quoi ? Et si je le prends, évidemment, je deviens un peu redevable de ça. Oui. Donc, vous voyez, il y a toute une série. Et donc, il y a une série de gens où les gens se trouvent pris dedans presque à leur corps défendant, malgré eux. Vous voulez pas faire de privilèges que vous êtes médecin, vous voulez pas faire de privilèges et vous dites que les gens doivent pas passer la queue. Mais arrive votre belle-mère, vous allez la faire passer devant tout le monde, etc. Et arrive quelqu'un qui est recommandé par elle, vous allez aussi. Donc, il y a une sorte de quotidienneté ou de banalisation de toute une série de pratiques qui... Alors, peut-être on peut aller aussi sur la façon dont les gens réagissent vis-à-vis de ça. Et je pense, là aussi, je vous donne un exemple parce qu'il me semble intéressant. Une directrice de maternité, là où nous avions enquêté, vous savez, normalement, l'accouchement, il y avait un forfait obstétrical à l'époque d'environ 1500 francs CFA. Et on s'est rendu compte, nous, dans nos enquêtes, les sages-femmes prélevaient environ 7 à 8 000 francs CFA sur les parturientes, sur celles qui venaient accoucher. Et la directrice, qui était une directrice réformatrice, vient, réunit les sages-femmes et leur dit, je sais que vous prenez tant et tant d'argent. À partir de maintenant, je vous interdis de dépasser 2500. Et autrement dit, on n'est pas dans un régime du tout ou rien. On est dans un régime où celle-ci, pour faire changer les choses, essaye de diminuer les aspects de racket de cette petite corruption.
Ouais, c'est-à-dire qu'on régule, on réglemente d'une certaine manière cette activité de la corruption. Boris Samuel, on arrive presque au terme de cette émission, mais je vous en prie.
Non, mais je pense que la question que vous posez en demandant ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas, c'est la question de savoir au service de qui est la norme. Il y a un travail qui, je pense, même s'il n'est pas sur la corruption était tout à fait édifiant, qui est le travail d'une anthropologue qui s'appelait Janet Reutemann, qui avait montré comment les coupeurs de route, donc les gens qui font de l'extorsion sur les routes, ont le sentiment de faire cette activité au nom d'une certaine conception de la justice sociale et de ce qui devait leur revenir de bon droit. Donc quand vous avez une grande politique sociale qui est mise en œuvre depuis un bureau qui, lui, a accès à des rentes très importantes, mais qui, de proche en proche, met en place tout un système qui est un système d'accès jusqu'au plus petit niveau, micro-local, jusqu'à l'échelle de l'école, un système d'accès à des avantages, eh bien, bien sûr qu'il y a à la fois une légitimation et en même temps une contestation extrêmement forte. Et selon la façon dont cette politique, qui fonctionne à la fois comme une politique sociale et une politique clientéliste, se positionne, elle peut se retourner. Et à certains moments, évidemment, je pense au cas du Maroc sur la mise en place de politiques de transfert, sur lesquelles Jean-Pierre-Olivier de Sardan a beaucoup travaillé aussi, les transferts monétaires qui sont donnés aux ménages pour aller à l'école ont fini par être dénoncés de manière extrêmement forte parce qu'ils reposaient sur des critères d'attribution au niveau micro-local qui étaient jugés comme très arbitraires. Donc la même politique, selon les moments, peut évidemment être l'objet d'une légitimation et d'une approbation ou au contraire d'un retournement pour la dénoncer de manière extrêmement forte, voire même contester violemment.
Ce qu'on entend aussi, c'est qu'au fond, ce monde de la corruption, c'est pas du tout un monde où règne l'anarchie, mais c'est un monde dans lequel il y a, au fond, des règles, des normes aussi. C'est aussi ça.
Alors un petit exemple, juste pour...
Très rapidement, on arrive à terme de l'émission.
Un petit exemple de quelqu'un qui a travaillé chez Jean-Pierre-Olivier de Sardan au Lasdel. Au Bénin, toute l'industrie de distribution de l'essence se fait en marge du circuit officiel par le CPAYO. Donc c'est Eliette Ayébi qui a documenté ça. Et c'est très légitime, voilà, par exemple. Corruption lies to me.
Merci beaucoup à nos deux invités, Boris Samuel qui est avec nous ici en plateau à Paris. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'IRD. Un grand merci également à Jean-Pierre-Olivier de Sardan qui est avec nous en duplex de Nîmes. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Un grand merci à tous les deux. C'était absolument passionnant d'évoquer cette question de la corruption qui n'est pas aussi simple qu'on peut le penser parfois du côté de l'Afrique. On poursuivra demain, on changera de territoire. Corruption, la grande tentation. Rendez-vous demain à 11h pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à tous les deux et merci également aux techniciens qui étaient à Nîmes, qui ont permis de faire un duplex. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous emmenez en Italie. Au Moyen-Âge, les cités-états italiennes étaient les leaders de la révolution commerciale de leur époque.
Oui, on y a imaginé des solutions dans le domaine du commerce et de la finance qui furent progressivement copiées et adoptées par tout le reste de l'Europe. Cependant, à partir du XIIIe siècle, il s'y est produit une série de phénomènes politiques étranges et concordants. Un peu partout, ces petites républiques semi-démocratiques ont voté le transfert de tous les pouvoirs à un prince. Elles ont renoncé à leurs institutions républicaines pour confier leur destin à des autocrates. Pourquoi ? Eh bien, pour Daron Acemoglu et James Robinson, qui se sont penchés sur cette énigme, la réponse est simple. Les peuples, voyant qu'ils ne pouvaient pas résister à l'ascension de la noblesse, ont donné tous les pouvoirs à un seul homme, afin qu'il les protège de son autorité. La leçon, c'est que les peuples sont disposés à abandonner la démocratie s'ils constatent qu'une élite s'est emparée des institutions. Eh bien, c'est le processus qui, de nos jours, provoque le populisme. Acemoglu et Robinson, le premier professeur d'économie, le second de relations internationales, viennent de co-signer un livre intitulé « Prospérité, puissance et pauvreté », sous-titre « Pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres » et il vient de paraître aux éditions Marcus Haller. Le populisme, selon eux, comporte trois caractéristiques principales. Il est anti-élitiste, anti-pluraliste et exclusif. Sa formule politique consiste à bâtir une coalition des mécontents en promettant au peuple de le défendre, non seulement contre les élites, mais contre les autres, ceux qui n'appartiennent pas au vrai peuple. Il y a trois bonnes raisons de considérer que le populisme n'est pas une bonne chose, poursuivent les auteurs. Primo, il mine les institutions démocratiques et les droits individuels. Deuxio, il mène à une concentration excessive du pouvoir. Tertio, ses performances économiques toujours médiocres mènent à une raréfaction des biens publics. Or, ajoute-t-il, nos démocraties occidentales dans leur ensemble pâtissent d'une situation particulièrement favorable aux appels des populistes. Les peuples soupçonnent, non sans raison, que les distances sociales se sont creusées et pas seulement les inégalités de revenus et de fortune. Le nombre de gens qui sont insatisfaits du fonctionnement des institutions existantes ne cesse de croître. Aux États-Unis, les gens estiment que les élites, non contentes de n'avoir pas anticipé la crise financière de 2008, avaient baissé les bras face à la mondialisation et au choc commercial chinois. Et c'est pourquoi ils ont donné la présidence à Trump. En Europe, ils ont l'impression que les institutions de l'UE avaient été dépassées par la mobilité du travail et les crises des réfugiés.
Mais alors que faire, Brice, pour apaiser ces craintes, en tout cas selon vos deux auteurs ?
Pour défaire le populisme, écrivent-ils, on doit reconnaître que le populisme n'émerge sérieusement que lorsqu'il existe des problèmes économiques qui lui servent de levier. Cela signifie être honnête et reconnaître que les définitions de ce qui signifie la citoyenneté doivent pouvoir être librement débattues. Fin de citation, mais surtout introduire davantage de démocratie dans nos institutions, en particulier des référendums, de manière à ce que les électeurs constatent que leurs problèmes sont pris au sérieux. Il faut en outre mettre en place des mécanismes de représentation parlementaire qui permettent d'obtenir des parlements plus représentatifs des différentes catégories de la population.
Mais le populisme a aussi ses défenseurs, bref.
Oui, prenez Raghuram Rajan, c'est l'ancien gouverneur de la Banque de réserve indienne. Il défend, lui, l'idée que le capitalisme a besoin du populisme pour lutter contre la concentration du pouvoir économique et l'influence politique que finissent inéluctablement par s'octroyer les monopoles. Les systèmes capitalistes ont besoin de la critique des populistes. Sinon, ils peuvent dégénérer en un capitalisme de copinage tel que celui qui fonctionne en Russie. Les oligarques qui doivent leur fortune à la captation des actifs de l'État dans les années 90 et ils ont pu compter sur l'État pour les garantir contre la concurrence en l'échange de leur soumission politique. On n'en est pas là aux États-Unis où les géants de l'économie numérique doivent leur succès aux économies d'échelle et aux effets de réseau et non pas à la protection politique du gouvernement. Mais en l'absence de concurrence, aussi, eux pourraient être tentés de se reposer sur leur laurier et de pousser un gouvernement à les protéger de toute innovation menaçant leur position. Par exemple, en faisant voter des tarifs douaniers ou des réglementations. C'est aux citoyens ordinaires de s'organiser afin, je cite, que l'État maintienne un capitalisme concurrentiel et empêche son glissement naturel vers la domination d'une poignée d'entités dépendantes de la bienveillance des gouvernements. Fin de citation. C'est ce qui s'est produit aux États-Unis au début du XXe siècle pour démanteler les monopoles et les ententes qui s'étaient créées dans les chemins de fer et dans le secteur bancaire. Il faut, dans leur propre intérêt, faire subir aujourd'hui le même traitement au monopole du numérique.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique, donc Prospérité, puissance et pauvreté, qui vient de paraître aux éditions Marcus Allaire. On peut évidemment retrouver votre chronique sur le site de France Culture.